Décryptage.
Loïc Bussière.
Depuis le début du mois d'août et les premières manœuvres au large de l'île de Castellorizo, celle d'un navire turc de recherche sismique croisant dans des eaux revendiquées par Athènes, le point de départ d'une escalade toujours en cours entre les deux pays membres de l'OTAN, des déploiements de troupes grecques auxquels répondent l'envoi d'avions de chasse d'Ankara, le tout au rythme de déclarations belliqueuses avec au centre des débats la question des ressources gazières d'une zone dont chacun revendique la propriété. En bref, le scénario d'une crise en bonne et due forme que les divers appels au dialogue ne parviennent pas pour l'heure à désamorcer. Athènes et Ankara engagés dans un dangereux bras de fer, comment et surtout peut-on sortir de cette crise en Méditerranée orientale? C'est la question que l'on pose ce soir dans Décryptage. Avec nos invités, bonsoir Jean-Pierre Molny.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS. L'IRIS, je le rappelle, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. En ligne avec nous également Nora Seni. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure émérite à l'Université Paris 8, ancienne directrice de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul, également fondatrice du site observatoireturquie.fr. Alors je vais me permettre tout d'abord d'essayer de faire un bref rappel des faits pour mieux comprendre ce qui se trame depuis le début du mois d'août, je le disais en préambule. Cette zone géographique donc qui est au cœur de ce qui se joue ces dernières semaines, précisément des eaux territoriales qui sont situées au sud de la Turquie, qui, pour faire court, font partie de ce qu'on appelle la zone économique exclusive de la Grèce. Pour Athènes, ça veut dire qu'elle a le droit d'exploiter ses ressources. Jean-Pierre Molny, est-ce que j'ai bien résumé la situation?
Oui, effectivement, sachant que en droit international public et notamment en droit de la mer, ces questions-là sont quand même assez compliquées, surtout quand vous avez des îlots. Donc, quand vous avez des litiges de ce genre, normalement, la meilleure chose, c'est de passer devant le juge international pour pouvoir régler la question.
Alors, le problème, ou tout au moins la question, justement, qui envenime les débats, c'est que cette fameuse zone est riche en gaz, en hydrocarbures. Nora Seni, est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière, Ankara et Athènes ont une conception radicalement différente du droit international?
Peut-être pas tellement, mais avant de passer à vos réponses, je voudrais vous signaler une information qui vient de tomber. Le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, a déclaré que la Turquie et la Grèce avaient accepté une réunion technique. Voilà.
Effectivement, c'est un tweet qui vient d'être publié. Ouais.
Voilà. L'intervention de Trump il y a quelques jours a eu un résultat. Donc, on peut, immédiat, on peut se demander, en effet, on se demandait jusqu'à présent qui allait, comment on allait. J'ai l'écho de ma voix là. Est-ce que c'est possible de le supprimer?
Oui, on va faire en sorte effectivement que votre écho.
Voilà.
Allez-y, Anne Racine, je vous en prie.
Voilà. Alors, on se demandait en effet quelle serait la force qui pourrait entraver l'éruption de la Turquie dans cette région. Et bien, je crois que c'est un coup de fil de Trump et des États-Unis qui ont laissé un territoire vide de leur influence dans cette région depuis que Trump a décidé de ne plus s'occuper du Moyen-Orient, tout en s'occupant, bien sûr. Maintenant, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais le débat à travers cette remarque. Nous avons une perception particulière de ce conflit aujourd'hui parce que cela advient après cinq ans de politique de défi de Erdogan vis-à-vis de ses alliés traditionnels, c'est-à-dire l'OTAN, les États-Unis, l'UE. Et donc, pendant ce délai, il y a eu cette façon de s'émanciper de ces alliances aussi bien en Syrie, en Libye, et surtout en achetant les S-400 à la Russie. Donc, c'est dans cette politique de défi que nous percevons le conflit entre la Grèce et la Turquie dans cette région. Mais en fait, c'est un conflit sur la définition des frontières des eaux territoriales des uns et des autres,
voilà,
qui a une longue, longue histoire et qui repose sur les accords de Lausanne. Et en fait, il y a une marche que la Turquie a peut-être ratée, c'est d'avoir signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Je crois que c'était signé dans les années 1980. Et la Turquie n'est pas signataire de cette convention.
Contrairement à la Grèce, c'est ce qu'on évoquait justement à l'instant. Je vais donner Nora Seni la parole à Jean-Pierre Monny pour qu'il puisse s'exprimer également. Nora Seni évoquait à l'instant la figure de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui est partie prenante dans ce bras de fer qu'on décrit entre Athènes et Ankara. Est-ce que justement sa personnalité, sa façon de s'exprimer, d'incarner son pays, elle compte énormément justement dans ce conflit?
Bah oui, ça compte énormément, parce que le conflit gréco-turc, il est quand même pas nouveau, hein. Il existait déjà dans les années 70, hein, sur la question de la délimitation maritime, sur la question du plateau de la mer Égée. Il y a eu plusieurs phases d'ailleurs qui ont été un peu vives. Il y a d'abord eu l'épisode de Chypre en 1977, mais ce qui est sûr, c'est que depuis quelques années, on a des tensions qui sont particulièrement avivées du fait effectivement du comportement du président turc. Je pense que peut-être que Nora pourra confirmer. Je pense qu'il y a deux éléments derrière cette politique. Il y a d'abord un élément de politique intérieure qui est au fond de ressouder le pouvoir, et c'est toujours plus facile quand vous avez un ennemi à l'extérieur de ressouder la population derrière le pouvoir. Et puis il y a également des prétentions en tant que puissance régionale. Et tout ça, naturellement, arrive à l'orthogonale de l'OTAN, parce que l'OTAN, elle n'a pas été conçue pour régler les questions au Proche-Orient. L'OTAN, elle a été conçue au départ vis-à-vis d'un ennemi qui est l'URSS et qui est ravivé aujourd'hui avec la Russie. Donc effectivement, les positions des acteurs peuvent être différentes sur les questions du Proche-Orient, et là l'OTAN se retrouve j'ai envie de dire paralysée pour régler ces questions-là, tout simplement parce que les membres n'ont pas les mêmes avis. Là ce qui vient d'être dit, c'est peut-être une information importante, s'il y a eu une intervention des Américains, parce que ce qui se passe depuis 15 jours, 3 semaines, c'est l'absence des Américains.
Voilà, ce que dit Jens Stoltenberg, donc le secrétaire général de l'OTAN, c'est que la Grèce et la Turquie se sont mis d'accord pour entrer en contact, pour discuter justement de manière un peu plus productive de la situation.
Oui, mais l'important, c'est de savoir si les États-Unis sont intervenus ou non, si je puis dire, pour siffler la fin du match. Parce que sinon, effectivement, malheureusement, je crains que l'Union européenne ne soit pas en capacité, ce qui est dommage d'ailleurs, de pouvoir agir sur le sujet.
L'Union européenne qui a déjà effectivement appelé au dialogue sur ce sujet. Nora Seni, vous vouliez réagir?
Oui, non, je crois que c'est établi qu'il y a eu une conversation de Trump téléphonique, aussi bien avec Recep Tayyip Erdogan que avec le Premier ministre grec. Je pense en effet que ça a été C'est à ça que l'on doit l'intervention de l'OTAN. Enfin, voilà. Mais pour revenir à ce que disait votre invité, la politique domestique est un grand élément explicatif de ce qui se passe à l'étranger. La Turquie, enfin, Erdogan se trouve en grande difficulté du point de vue économique, mais aussi du point de vue de son électorat fatigué. Et puis, la pandémie n'a pas arrangé tout ça. Il essaye de s'en sortir par la guerre. Mais la question est aussi de savoir comment on intervient là-dessus. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques jours, une, avocate est décédée à l'issue de sa grève de la faim en prison. Et la presse internationale, l'opinion internationale s'en était mise. Et bon, ça c'est la dynamique de l'événement, si vous voulez, et de la façon dont la presse agit. Mais enfin, on a oublié, on a totalement laissé passer la déclaration qu'a faite dans l'après-coup de cette tragédie à Rome. Il a dit « il faudra que nous envisagions de interdire l'usage aux avocats qui défendent ce qu'il appelle les terroristes, leur métier, pratiquer leur métier. » Donc, le droit de la défense est terriblement menacé en Turquie, comme est menacé le droit tout simplement. Et de ça, on en parle très peu. Alors, c'est-à-dire qu'on est dans la politique, dans nos politiques, aussi bien en Europe qu'à l'international, on fait nos affaires avec des pays qui sont en... Comme la Turquie en mépris total du droit et de nos valeurs, et on les laisse, on fait du business as usual. Et après, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce genre de dérive, ce qu'on appelle la dérive autoritaire, et donc la destruction des institutions de droit dans des pays, c'est contagieux. Ça ne laisse pas indemne les autres pays, qu'ils soient en Europe ou ailleurs. Alors, ça ne laisse pas indemne.
Justement, Laura Sani, vous parlez c'est vous qui évoquez ce terme de dérive autoritaire. Jean-Pierre Monny, je voudrais qu'on revienne justement sur la figure de Recep Tayyip Erdogan. Vous disiez tout à l'heure que cet épisode, cette séquence justement qui se passe entre la Grèce et la Turquie, elle sert aussi les intérêts de Recep Tayyip Erdogan. Je voudrais citer le quotidien Tania, le quotidien grec, qui cette semaine justement évoque une position d'Erdogan qui n'est pas censée... Le quotidien dit qu'il ne provoque pas les tensions militaires dans cette fameuse région pour revendiquer des richesses naturelles, mais que c'est une manière surtout d'asseoir son pouvoir pour rassembler les Turcs derrière lui. Est-ce que vous souscrivez justement à cette analyse ?
Oui, évidemment. Après, il y a quand même une question de délimitation des eaux territoriales et de la zone économique exclusive, qui est encore une fois quelque chose de compliqué, où les enjeux économiques sont extrêmement importants. Et là, il faudra effectivement trancher à ce niveau-là. Ce qu'on voit quand même avec Erdogan, c'est je dirais que c'est une accélération de l'histoire et des événements qui font dire quand même qu'il n'est pas non plus certain que le régime puisse avoir une durée de vie si longue que ça. Parce que je dirais que c'est une espèce de course à l'échalote ces derniers mois et ces dernières années, avec des épisodes qui sont de plus en plus brutaux, des paroles qui sont de plus en plus brutales de la part de Erdogan. Il a quand même perdu les élections à Ankara et en Istanbul, donc son pouvoir n'est pas si bien assis que ça. Et je pense que toute la question qui va commencer à se poser à un moment, c'est quelle va être la fin de l'histoire au niveau du régime turc. Est-ce qu'il peut y avoir à un moment une transition qui se passe dans des conditions satisfaisantes ou dans des conditions, on va dire, beaucoup plus brutales. Ça commence à devenir, je pense, une vraie question.
Vous parlez de brutalité, justement. Je voudrais revenir sur des termes qui ont été employés ces dernières semaines, des termes extrêmement durs. On parle de piraterie, un terme comme colonisation, comme casus belli, justement, qui est d'ailleurs apparu du côté turc. Est-ce que on est dans une manière de montrer ses muscles d'un côté et de l'autre? Est-ce qu'on est seulement dans la guerre des mots? Ou est-ce que ça peut être un préambule à la guerre tout court? Jean-Pierre Monny, je vous donne la parole. Je la redonne juste après à Laura Sani.
Encore une fois, il y a deux choses. Il peut y avoir des différends entre des pays. Et là, il y a une vraie question quand même entre la Grèce et la Turquie. On ne peut pas l'évacuer d'un roquet vert de main en disant il y a un bon et un méchant. Bon, après, il y a une façon, encore une fois, de régler ces différends. Et on va dire que la façon dont le président turc essaie de régler ce différend n'est pas adéquate. Voilà. Après, ça pose un problème à tout le monde, parce que effectivement, la crainte qu'on peut avoir, c'est que dans cette dérive, il puisse effectivement avoir un incident militaire. Bon, mais même à ce niveau-là, avec Erdogan, j'ai presque envie de dire qu'il a l'habitude. Il a quand même, le régime turc a quand même abattu un avion russe, tout ça pour quasiment s'embrasser sur la bouche avec Poutine 2 mois après. Donc il peut quand même y avoir des revirements de l'histoire, peut-être qu'il peut y avoir un incident militaire qui peut arriver, ça sera pas nécessairement dramatique. Ça peut même être peut-être une occasion de pouvoir régler le différend. Mais encore une fois, on va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais à mon avis, si les Américains sont intervenus, ils sont intervenus pour dire, pour faire pression.
Fin de la récréation.
Et oui, et s'il y a pression, c'est qu'on menace de quelque
comme
chose.
Comme vous le disiez de manière imagée tout à l'heure, Nora Seni, est-ce que vous voyez dans un futur proche Grecs et Turcs s'embrasser sur la bouche, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Molny?
Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quand même une culture, des cultures très proches. Mais il y a des fractions de la population turque et grecque qui s'aiment beaucoup, qui s'entendent bien. Mais c'est pas la question, si vous voulez. Ce quoi il faut sans doute revenir, c'est que c'est vrai qu'une étincelle arrangerait les affaires d'Erdogan. Mais quand on regarde la carte des eaux territoriales, et votre invité a tout à fait raison, il y a quelque chose à régler. La Turquie n'a quasiment, l'état actuel de la définition des frontières, la Turquie n'a quasiment pas accès aux eaux de la Méditerranée. C'est assez choquant. L'île en question,
Castelhorizo, effectivement, enfin, selon ça,
est une caricature de cette situation, mais il y en a d'autres. Je veux dire, c'est la question qu'il faudra en effet régler, et que si on s'y était pris peut-être autrement, ça aurait pu être possible. Ceci dit, la Turquie n'a commencé à se faire entendre qu'à partir du moment où Erdogan a commencé à être incontrôlable, et qu'elle a, ça a suscité des craintes légitimes, autant à l'international que sur la scène domestique. Donc, en effet, il y a un problème à régler. Maintenant, est-ce que Erdogan... Il y a un dicton en turc qui dit est-ce que tu veux manger le raisin ou battre le vigneron? Et très souvent, on a l'impression que Erdogan veut surtout battre le vigneron, que le raisin importe peu. Quoique dans la situation du gaz en Méditerranée, je pense que le raisin gaz n'est pas insignifiant. Mais voilà, je veux dire, faire de l'événement, utiliser la politique d'Erdogan, on se demande quelle est sa stratégie. On peut se demander en effet s'il a une vraie stratégie, ou s'il n'est pas simplement, s'il ne mène pas une politique tout à fait aventurière, opportuniste. Le kairos dont parle les Grecs, vous savez, utiliser l'occasion, créer l'occasion et le moment propice. C'est ce qu'il est en train de faire.
On en restera là pour ce soir, Nora Seni, sur cette image du raisin et du vigneron, si vous le permettez, puisque l'heure tourne. Je suis désolé, mais c'est la fin de cette émission. Merci, Nora Seni, professeure émérite, je le rappelle, à l'Université Paris 8, fondatrice du site observatoireturquie.fr. Merci à vous, Jean-Pierre Molny, également d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques.